Salut, c'est Philippe Lachaud. Bienvenue sur Just for Fun.
Le 5 septembre 1994, une famille sartoise est massacrée à l'arme blanche. Christian le prince, Brigitte son épouse, Sandra et Audrey, deux fillettes de 10 et 7 ans. Cinq jours après, épuisé par 46 heures de garde à vue, accusé par sa propre femme, Dany le prince avoue avoir tué son frère Christian. Malgré sa rétractation et l'absence de preuves matérielles, il est condamné en décembre 1997 à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Dany le prince va passer 18 ans en prison tout en continuant de clamer son innocence. Le samedi 10 décembre, nous avons eu l'honneur de l'accueillir à Champagné avec Bernard Nicolas afin de parler du livre qu'ils ont écrit ensemble, « Ils ont volé ma vie ». Voici l'interview.
Alors merci beaucoup Monsieur Dany le Prince et Monsieur Bernard Nicolas d'être venus répondre à nos questions. On va parler aujourd'hui du livre que vous avez écrit ensemble, « Ils ont volé ma vie », qui est juste là. Première question, qu'y a-t-il derrière le « il » ?
Alors derrière le « il », il y a un petit peu de monde quand même. Je ne sais pas si je vais tous les énumérer. Mais en tous les cas, ça commence par les gendarmes, le juge d'instruction, le procureur de la République de l'époque, hein, qui s'appelle M. Tain. J'aime bien le prononcer, M. Tain. Et puis, il y a évidemment les journalistes qui ont pris pour argent comptant ce que le procureur a dit à la sortie de la garde à vue.
Avant le 19 avril 2021, vous n'aviez pas le droit de parler de cette affaire. Qu'est-ce que cela vous fait aujourd'hui de pouvoir enfin vous exprimer après être si longtemps resté dans le silence ?
Alors évidemment, ça fait plaisir de pouvoir parler aussi de ce que j'ai vécu. Parce que beaucoup de gens ne le savent pas. C'est surtout les décisions judiciaires qui parlent. Et là, j'ai la chance de pouvoir parler. Parce que précédemment, je ne pouvais pas parler dans la mesure où il y avait la conditionnelle avec les conditions qui s'imposent.
Vous pouvez parler dorénavant, mais vous pouvez également écrire. La sortie de ce livre en témoigne. Vous parlez très vite dans le livre d'ailleurs de l'importance de l'écriture pour vous. Vous dites « écrire est ma boussole ». Est-ce l'écriture qui vous a permis de tenir ?
Alors évidemment, il y a eu l'écriture, mais pour mener un combat, quoi. Et puis j'ai écrit, mais j'ai eu beaucoup de soutien pour pouvoir écrire, parce qu'il faut de la matière, hein. Donc je tenais à remercier tous ceux qui m'ont aidé à mener ce combat d'écriture. Donc c'est peut-être pas le bon terme, mais j'ai arrosé l'Elysée avec 15 000 lettres. Et donc je pense qu'ils commencent à en avoir un peu marre. Et puis j'ai écrit 4-5 fois à l'Assemblée nationale, à tous les députés, à tous les sénateurs, et à tous les maires de la Sarthe également. Et d'ailleurs, je tiens à le dire ici, il y en a qu'un qui m'a répondu. Alors je ne sais pas s'il faut tenir compte de celui qui m'a répondu ou tenir compte de ceux qui ne m'ont pas répondu. Donc ça fait pas beaucoup. Après j'ai écrit à tous les conseillers généraux, les conseillers régionaux et les députés européens. Enfin, c'était une belle leçon d'instruction civique. Mais je le répète, sans l'aide de mes amis, j'aurais pas pu faire autant de choses que ça.
Vous avez été condamné sans véritable preuve matérielle et le dossier comporte beaucoup d'incohérences. Avec le recul, quel regard posez-vous sur cela ?
C'est une vaste question. Comment dirais-je ? J'aurais préféré que ce soit un peu plus précis, mais bon.
Comment est-ce que vous réagissez face à toutes ces incohérences qui sont dans le dossier et le fait d'être condamné sans même avoir de preuves contre vous ?
Ben, les incohérences, elles sont venues suite à la garde à vue, c'est-à-dire il ne m'instaure que des aveux à la 46e heure. Et évidemment, le dossier va se retrouver sans preuve matérielle à mon encontre, parce que c'est quand on arrache un aveu à quelqu'un, et évidemment, c'est compliqué de retrouver des preuves matérielles. Par contre, on va en retrouver à d'autres, mais on ne fera rien. C'est-à-dire, il n'y aura pas une recherche approfondie de l'ADN. Les incohérences de mon ex-femme et de ma fille, qui ont changé de version autant de fois qu'elles ont été entendues, ont fait que le dossier est devenu, aux yeux des gens, même du grand public, dire, il doit y avoir un problème. Le problème, c'est que personne, ou très peu de personnes, cherchent à savoir d'où le problème vient.
D'ailleurs, on va revenir donc sur ces aveux, puisque vous expliquez dans le livre que ces aveux vous ont été extorqués. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette garde à vue ?
Alors, je tiens à dire que après la garde à vue, j'ai mis un certain temps à en parler parce que j'avais honte. J'avais honte de m'être fait avoir comme ça, mais bon. Alors, j'ai mis ça par écrit au tout début, mais j'avais du mal à le dire oralement. En fait, là, en fin de garde à vue, je vais vous passer les premières heures, hein, parce que je me souviens plus trop. Et il faut savoir déjà que je viens de perdre 4 membres de ma famille, et ça, avant que j'arrive en garde à vue, ça fait 5 jours que je ne dors pas. Donc, quand j'arrive en garde à vue, je suis déjà très fatigué. Et donc, essayez de rester sans dormir pendant 5 jours. Et si en plus de ça, vous avez un drame qui vous touche, ça fait mal, quoi. Et donc, vers la fin de la garde à vue, vers la 46e heure, il y a un enquêteur qui s'occupe de la garde à vue de mon ex-femme et qui vient me dire « Ta femme t'a vu courir après ton frère avec une feuille de boucher ». Et il m'a dit « Tu vas avouer, enculé ». Enfin, ils m'ont traité de tous les noms. Mais il faut le vivre à la garde à vue. Enfin, moi je dis souvent, la garde à vue, ça se raconte pas, ça se vit. Bon, je souhaite à personne de vivre la garde à vue. Et puis, quelques minutes plus tard, donc il y a beaucoup de bruit. Moi personnellement, je sais plus s'il fait jour ou s'il fait nuit, parce qu'on sait même pas, on est dans des sous-sols, enfin je sais même pas où on est. Et vers la fin, quelques minutes plus tard, j'entends une fille crier. Et ce même enquêteur qui était venu auparavant, il me dit c'est ta fille qui crie enculé, il faut que t'avoues. Et donc moi, ne supportant plus ma fille crier, j'ai répété les dires de l'enquêteur, c'est-à-dire que j'avais couru après mon frère avec une feuille de boucher. Donc là, la garde à vue s'arrête, et puis après je suis présenté devant le magistrat, Madame Brunetière. Évidemment, je tombe dans. J'en ai tellement marre, j'étais tellement fatigué. Donc, je répète pour qu'on me laisse tranquille. Et moi, j'ai surtout envie de dormir parce que là, j'en peux plus, quoi. Mais c'est au réveil à la maison d'arrêt de Rennes que là, je m'aperçois que j'ai fait une sacrée boulette qui va m'emmener jusqu'aux assises, quoi.
Et après cette garde à vue, tout a été très vite, puisque vous avez été désigné coupable par une partie de la presse, notamment avant même que le procès ait lieu. Est-ce que ce n'était pas un peu une double peine pour vous, par la justice et par l'opinion publique ?
Non, tout d'abord, je voudrais apporter une précision sur... je m'excuse, Mathéo.
Pas de souci.
Je voudrais apporter une petite précision sur l'écrit de ma fille. En fait, le 29 septembre, je suis entendu. Auparavant, j'étais allé à la reconstitution à laquelle je n'ai pas participé. Et le 29 septembre, je découvre que... Enfin, je parle de ma garde à vue à la juge. Et je lui dis, j'ai entendu ma fille crier. Et elle me dit, c'est pas votre fille que vous avez entendu crier, puisqu'elle est entendue à Conly, 40 km. Et là, c'est là que je découvre la supercherie des enquêteurs, c'est-à-dire pour obtenir un aveu, ils ont fait pleurer une femme gendarme pour la faire passer pour ma fille. Donc c'est une méthode machiavélique, et cette histoire-là va m'emmener à faire 18 ans de prison pour rien. Et d'ailleurs, par la suite, ça va être confirmé, puisque, si vous voulez, on ne retrouvera pas une seule empreinte de moi nulle part, que ce soit dehors, à l'intérieur, voilà.
C'est bon. Et donc pour... par rapport à cela, ensuite tout a été très vite, vous avez été condamné par la justice avant même qu'il y ait un procès. Est-ce que c'était pas une double peine par la justice et par l'opinion publique?
Je sais pas si c'est une double peine, mais en tous les cas, j'avais été condamné avant d'être jugé. En plus de ça, il y a plein d'éléments dans le dossier qui ont été laissés vacants parce que ils allaient quand même pas changer changer l'orientation d'enquête dans la mesure où ils avaient, je devrais pas le dire, mais un pigeon qui était là tout près. Et donc tout était plié d'avance, quoi.
Et vous, Bernard Nicolas, est-ce que vous avez suivi l'affaire dès le départ, dès 1994, ou est-ce que vous aviez un avis sur la question ?
Non, à l'époque, moi, je dirigeais le service enquête reportage à TF1. On a envoyé des reporters sur place, mais je n'ai pas suivi précisément le dossier. Moi, je suis rentré dans le dossier en 2007 à l'initiative de Roland Agré, qui, pour les gens qui ne le connaissaient pas, Roland Agré est décédé il y a quelques années, il y a 3-4 ans, mais en réalité, il avait été condamné à tort lui-même dans les années 70, puis ensuite innocenté, complètement réhabilité, et il a consacré le reste de sa vie dans une association qui s'appelle Action Justice à essayer de dénicher des erreurs judiciaires éventuelles. Et il avait beaucoup travaillé à la demande de la maman de Dany Le Prince sur le dossier, et il était venu me voir à l'époque, en 2007, je travaillais à Canal+, dans un magazine d'investigation, et il m'a dit, il faut absolument que tu t'intéresses à ce dossier. Ce que j'ai fait, et je suis rentré dans le dossier au travers de différents procès-verbaux, tout était classé dans l'ordre chronologique de l'affaire, et très rapidement, parce que j'avais l'habitude j'ai travaillé sur d'autres dossiers judiciaires emblématique, et je me suis aperçu que dans cette affaire, rien ne collait. Les déclarations des uns et des autres étaient contradictoires. Les deux accusatrices, l'ex-femme de Dany Le Prince et sa fille, racontaient soi-disant un même événement, c'est-à-dire l'agression de Christian par Dany, mais elles ne disent pas la même chose, alors qu'elles étaient soi-disant au même endroit, au même moment. Et ça ne correspond pas non plus à l'aveu partiel de Dany Le Prince. Et moi, ce qui m'a le plus frappé d'emblée, c'est que à l'issue de l'aveu de l'agression de Christian, les gendarmes arrêtent l'audition. Ils arrêtent et ils ne lui demandent pas comment, éventuellement, il aurait tué les trois autres. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et pareil pour la juge. La juge ne va pas plus loin. Elle ne le force pas à raconter. Il aurait eu beaucoup de mal, évidemment, à raconter la suite. Et donc, là, je me suis dit, c'est complètement anormal, puisque, et c'est vrai que 28 ans plus tard, on ne sait toujours pas dans quel ordre les victimes ont été tuées. On sait que Christian a été tué à l'extérieur, son corps traîné dans la maison, mais c'est tout. On ne sait pas. Si, les corps ont été déplacés le matin, c'est évident. Mais c'est pas par Dany Le Prince qui, lui, il travaillait à la Socopa à ce moment-là. Donc il y a quelqu'un qui a déplacé les corps le matin. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Donc tout ceci était bancal. Très rapidement, quand on lisait les premiers procès-verbaux, parce que ce sont souvent les plus crédibles, les plus plausibles. Et quand on lisait les différents témoignages, on s'apercevait que rien ne collait. Et alors plus tard, après, quand on rentre dans le dossier, on s'aperçoit que les médecins légistes évoquent plusieurs blessures à l'aide de couteaux. Et on se demande pourquoi tout d'un coup une feuille de boucher fait irruption dans le dossier comme ça, alors que ça ne correspond pas du tout à l'autopsie. Enfin bon. Et puis, quand on sait, moi j'ai lu le descriptif de la scène de crime avec du sang partout, enfin c'était vraiment horrible, quoi. Et le présumé coupable, Dany Le Prince, n'aurait laissé aucune empreinte, ni de pas, ni d'empreinte palmaire, ni d'empreinte génétique, d'ADN. On en trouve d'autres, mais qui ne sont pas de lui. Mais c'est lui qu'on va accuser, sur lequel on va s'acharner pendant des années. Donc, pour moi, évidemment, au-delà de mon travail de journaliste, j'en ai fait aussi un devoir de citoyen, quoi.
Et donc c'est pour ces raisons que vous avez réalisé un documentaire sur Canal+, sur l'affaire.
Voilà, j'ai réalisé un documentaire en 2009 sur l'affaire. On était venu d'ailleurs faire une projection à Torigné. On avait animé la soirée tous les deux avec Roland Agré, la salle était archi pleine et beaucoup de gens qui pensaient qu'il y avait quelque chose derrière la version officielle, quoi. Dans la série, il n'y a pas de fumée sans feu, etc. Ils étaient venus voir et ils sont repartis convaincus, je pense, enfin je l'espère, de l'innocence de Danny et que derrière tout ça, on n'avait jamais vraiment cherché les vrais responsables de ce massacre. Et donc, oui, moi je pense que dans mon documentaire, j'avais essayé de faire quelque chose de très très consciencieux, méthodique, où j'avais démonté pièce par pièce tous les éléments qui me semblaient anormaux. La juge d'instruction de l'époque, Céline Brunetière, avait accepté de répondre à l'interview. Sans que je le veuille vraiment, elle s'était ridiculisée dans l'interview au travers de ses réponses. Mais j'avais surtout, ça c'était la plus-value de mon doc, c'était l'ancien chef d'enquête, qui était un des responsables de la section de recherche d'Angers à l'époque, qui avait accepté, qui était à la retraite à ce moment-là, qui avait accepté de répondre à mes questions et qui a avoué face caméra qu'effectivement il manquait beaucoup d'éléments dans ce dossier et qu'il n'avait pas pu aller au bout de leur enquête. Les commissions rogatoires étaient à moitié faites. Par exemple, il y a une empreinte de pas de taille 41 de chaussures Doc Martens ou imitation Doc Martens. Dany Le Prince, chaussures du 44-45, hein, voilà. Et en réalité, donc ça pouvait pas être lui, évidemment, hein, mais bon, là, ils ont jamais retrouvé à qui appartenait cette chaussure qui a laissé cette empreinte vraiment très significative. Et le gendarme reconnaissait humblement qu'il s'était planté. Ils avaient jamais rien trouvé. Ou alors, ils avaient peut-être pas vraiment cherché. Voilà, donc c'est tout ça que j'avais mis bout à bout dans mon enquête, et les gens étaient stupéfaits. Je me souviens de Robert Le Prince, le papa, qui était là au premier rang, très ému, évidemment, et tous les gens sont venus l'entourer, le réconforter en lui disant « Votre fils va un jour prouver son innocence, etc. etc. » C'était un moment très très fort. Voilà, là j'ai compris qu'au travers de mon documentaire, j'avais, voilà, comme je le disais là récemment à vos futurs confrères journalistes, que j'avais fait œuvre utile, voilà, en faisant ce documentaire. Et donc pour moi, accompagner Dany dans son récit pour ce livre, voilà, c'était logique, c'était cohérent de poursuivre de cheminer avec lui.
Et vous, Dany Le Prince, vous avez regardé ce reportage depuis votre cellule. Qu'est-ce que vous aviez ressenti à l'époque? Vous étiez ému?
En fait, je n'ai pas été très surpris du travail de Bernard Nicolas, même si c'était un boulot formidable. Moi, ça faisait que de conforter ce que je dénonçais depuis des années. Donc, évidemment, j'ai accueilli, j'étais très heureux de son travail, quoi. Voilà.
Et quel rôle a joué tout le soutien que vous avez reçu durant votre incarcération?
Pardon?
Quel rôle a joué tout le soutien que vous avez reçu durant votre incarcération?
Alors là, ils ont fait plein de choses. Ils ont fait des manifestations à Paris, au Mans, des sorties moto. Enfin bref, ils ont fait un travail fabuleux. D'ailleurs, le président est présent, le président de l'association, même si l'association, on n'a pas pu la poursuivre à cause, il y a eu plein de phénomènes qui nous ont empêchés de poursuivre, le Covid, enfin, c'était un peu compliqué. Mais en tous les cas, ils ont fait un travail formidable, quoi. Et sans eux, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui.
Alors, pour revenir au livre, est-ce que l'écriture de ce livre, ça a été une décision spontanée de votre part, Dany Le Prince, ou c'est une décision concertée?
Non, ça n'a pas été une décision spontanée. En plus de ça, c'était pas mon objectif, parce que moi, je n'ai qu'un seul objectif, c'est que la justice fasse son travail, confronte des assassins et que mon innocence soit reconnue et qu'on redonne l'honneur à ma famille. Bon, le bouquin, c'était pas une obligation, c'est Bernard qui m'a incité à le faire, et puis des amis qui m'ont dit que ça serait bien de le faire aussi.
Et combien de temps est-ce que ça vous a pris à tous les deux d'écrire ce livre?
D'écrire tous les deux ?
Oui.
Bah déjà parce qu'on se connaît depuis quelques années. Bernard est venu me rendre visite à Poissy. Et puis c'est comme ça que ça a germé. Enfin, il n'est pas le seul journaliste à être venu me rendre visite à Poissy. Il y a eu Bernard, pas Bernard Nicolas, évidemment, mais Nicolas Poincaré. S'il y a que des Nicolas, on ne sait pas si c'est au début ou à la fin. Et puis j'ai aussi la visite de Marietta Caramoli, la députée de la Sarthe. Donc voilà, et en même temps, j'avais quand même une centaine de permis de visite à Poissy. Donc j'ai eu beaucoup de visites, beaucoup de soutien, et je tiens à les remercier à nouveau.
Et combien de temps ça a pris d'écrire ce livre ?
Quelques années. Hein. On a commencé de bonne heure. On a commencé en 2014, hein, 2014-2015. Et puis, on a fait ça tranquillement. Quoi. On a avancé. Ce n'est que vers les... Enfin, cette année où ça s'est accéléré parce que, voilà, il fallait bien qu'il sorte.
Oui, si je peux rajouter un petit mot, c'est que... on signe le contrat chez Flammarion en 2015, sauf qu'à ce moment-là, Dany est contraint au silence pendant une dizaine d'années, compte tenu de sa liberté conditionnelle. Et donc, on est obligé d'attendre ce délai de 10 ans avant qu'il puisse s'exprimer, parce que sinon, il se mettait en contradiction, entre guillemets, avec la mesure de liberté conditionnelle. Et donc... c'est quand cette conditionnelle est tombée, donc en avril 2021, qu'on a commencé à accélérer tout ce qui était écriture, parce qu'on avait fait des journées entières d'entretien chez Dany et Annie à Marmande, donc où on avait refait tout l'itinéraire de Dany, et ensuite, effectivement... il y a tout le travail de mise en forme, d'écriture, et on était en relation permanente. J'envoyais les chapitres à Dany, il corrigeait, il me les renvoyait, etc. C'est comme ça que ça se fait, c'est artisanal, hein, mais ça marche comme ça. Et on a travaillé en toute confiance. Quand il m'arrivait de faire quelques erreurs, Dany corrigeait. Il me disait, ah non, c'est pas comme ça exactement, etc. Donc, et c'est du pas à pas. Et ça s'est finalement bien passé. On a, je pense que, enfin, ce que j'espère, mais il me l'aurait dit, parce que quand il a une chose à dire, il l'a dit, il se cache pas. Je pense ne pas avoir trahi sa pensée dans le manuscrit à la fin.
Et justement, vous l'avez dit, comment est-ce qu'on fait pour retransmettre un récit aussi personnel à deux ?
Ça, c'est la confiance mutuelle que l'on peut se faire. Comme le disait Dany tout à l'heure, on se connaît depuis de nombreuses années. Et s'il ne m'avait pas fait confiance, je pense que ça n'aurait pas été possible, déjà. Même si on ne peut pas, c'est ridicule de dire j'essaie de me mettre à sa place. Non, on peut pas imaginer, comme le dit Dany, une garde à vue, il faut la vivre. Donc la raconter, c'est quand même très très particulier. Et écrire à la première personne du singulier, au présent narratif, comme on dit. C'est-à-dire, on est là, on est dans l'action. C'est comme ça que j'ai voulu écrire le bouquin. C'est évidemment pas facile. Mais je l'avais déjà fait avec d'autres avant. J'ai été le prête-plume, c'est mon 7e ou 8e livre. Et j'ai toujours accompagné des gens qui avaient des histoires fortes et exemplaires, à mon avis, à raconter. Et donc, je les accompagnais comme ça dans l'écriture. Donc, ça n'est effectivement jamais facile. Mais ce sont nos échanges permanents. Une lecture attentive de Dany à ce que je venais d'écrire qui a fait que il ne s'est pas senti étranger à ce que j'avais écrit. C'était bien lui, et d'ailleurs le meilleur témoin, la première lectrice, c'est l'épouse de Dany Le Prince, Annie, qui a dit: c'est incroyable, je vous reconnais tous les deux. dans le bouquin, finalement, comme si c'était qu'un seul et même homme, qu'un seul et même auteur. Et voilà, si on me dit ça, moi, je suis quand même particulièrement satisfait, et je me suis dit, on a tapé juste.
Et il y avait déjà d'autres livres qui avaient été écrits, tels que Le Couteau jaune ou encore Condamné à tort. Pourquoi est-ce que c'était important d'écrire un livre vous-même ?
Bah déjà, c'est important parce que c'est moi qui raconte. Donc c'était la première fois. D'habitude, les précédents ont été faits, en tous les cas, ils ont été très, très bien faits, mais là, c'était moi qui racontais. Donc c'est quand même plus intéressant pour ceux qui vont le lire en plus.
Dans ce livre, vous évoquez aussi, surtout au début de votre incarcération, la peur de changer, de ne plus être le même. Après la prison, est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez avoir changé ?
Je ne crois pas. J'ai appris beaucoup de choses, parce que si j'étais resté au milieu des champs, j'en aurais peut-être moins appris. J'ai rencontré plein de gens, des gens intéressants. J'ai appris comment l'institution judiciaire fonctionnait. Ça, j'aurais bien aimé l'éviter, mais bon, c'est pour ça que souvent je dis, il faudrait que les gens ils s'intéressent un peu comment notre justice ça fonctionne, et ne pas croire que ce qui se passe à la télé c'est tout beau, tout rose. Non, c'est la justice, c'est une machine redoutable, et dans mon cas, elle était redoutable, et on ne peut pas faire grand-chose finalement. Mais j'ai appris beaucoup de choses.
Comment est-ce que l'on vit lorsqu'on est en prison et que l'on sait qu'on est innocent ?
Déjà, être innocent, c'est un avantage. Bon, après, c'est difficile, parce que c'est quand même honteux d'enfermer un innocent en prison. Mais c'est un avantage parce que ça permet de mener un combat. Souvent, j'avais des amis qui venaient me voir. Et ils étaient plus malades que moi, quoi. Alors, j'étais obligé de remonter le moral. Donc c'est quand même un avantage des innocents. Voilà, ben après il faut essayer de faire abstraction, parce que c'est pas qu'une année, quoi. Il y a eu 18 années. Et il faut essayer de faire abstraction au lieu où on se trouve. S'occuper de personne, pratiquement. Et puis voilà. Et puis moi j'avais beaucoup de courriers à faire, donc ça m'a occupé le temps. Et j'ai travaillé aussi en même temps, parce que même si ça peut paraître dérisoire, je pense à ma retraite.
Vous avez mené durant toutes ces années ce combat pour la liberté, durant laquelle vous n'avez cessé de clamer votre innocence. Pourquoi, alors qu'aujourd'hui vous êtes libre, vous décidez de continuer ce combat, et jusqu'où ira-t-il ?
Alors, c'est une obligation, et c'est même un devoir. C'est un devoir pour moi de continuer le combat. Et sachez bien que si j'avais été mêlé, rien qu'une petite chose à cette histoire, je ne me serais pas lancé dans cette aventure. Je serais resté dans le Lot-et-Garonne, je ne serais pas là aujourd'hui. Je serais resté dans le Lot-et-Garonne, les pieds en éventail, au soleil. Il fait très beau là-bas, il fait meilleur qu'ici. Enfin, je n'ai rien contre la Sarthe, parce que j'adore la Sarthe. Mais c'était un devoir pour ma famille disparue, également pour ma petite nièce qui a 30 ans aujourd'hui. Et donc on se doit de lui donner la vérité, et la vérité ne viendra que par l'action judiciaire. Il n'y a que la justice qui puisse rétablir la vérité.
Et vous avez vécu de très nombreuses années plongées dans ce dossier. Est-ce que c'était pas un peu difficile de se replonger dans l'affaire pour écrire le livre ?
Non, ça n'a pas été... évidemment, il y a des passages qui sont douloureux, hein, parce que faut pas oublier, il y a eu un drame, mais il y a eu d'autres drames aussi qui sont venus s'ajouter. Mais personnellement, ça n'a pas été difficile, parce que, comme je le répète, c'est un devoir, on le doit à ma famille, et on le doit à ma petite nièce.
Lorsque Madame Anzani est devenue la juge de l'affaire, vous avez été pour la première fois écoutée. Est-ce que c'était une première victoire pour vous ?
Martine Anzani, je vais vous raconter, je vais peut-être vous raconter un peu le livre, mais quand j'ai su que Martine Anzani allait reprendre le dossier après Jean Beyer, je n'étais pas très rassuré, parce que cette dame a une réputation de... c'est une grande magistrate, et qui a l'habitude de ne pas se laisser faire. et qui n'est pas commode en plus. Et donc j'étais un peu, j'ai eu un peu peur, quoi. Et en fait, c'est tout le contraire qui s'est passé. C'est quelqu'un de très très à l'écoute, qui s'occupe pas s'il faut qu'elle, interroge un policier ou un gendarme. C'est quelqu'un qui fait pas dans le détail, quoi. Donc c'est une immense magistrate.
Et elle a permis de mettre en évidence plein de points qui n'allaient pas.
Oui, c'est vrai. Elle a poussé certains dans leur retranchement. J'appréhendais quand même au début. Ouais.
Vous évoquez dès le début du livre votre enfance, dans un chapitre qui s'appelle « Un enfant heureux ». En quoi était-ce important pour vous de ne pas parler que de l'affaire Dany le Prince, mais de aussi parler de Dany le Prince lui-même ?
Ben, ça va de soi, il faut parler de soi aussi quand on est petit, même si, on pense que c'est dérisoire de pas parler de soi. Et quoique parler de soi, c'est pas si évident que ça non plus. Mais moi, je trouvais que c'était important, et avec Bernard, on dit c'est bien de parler de la jeunesse. Alors évidemment, il y a des petites anecdotes qui font rire. Mais moi, je trouvais que c'était important de parler de notre jeunesse, et surtout avec Christian, avec qui on s'entendait bien depuis... J'ai été son grand frère très 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 longtemps, même quand on sortait, et ainsi de suite.
Oui, c'est toujours fondamental de revenir sur les racines d'un homme condamné à tort, et condamné en particulier... sur des arguments fallacieux du style les deux frères ne s'entendaient pas, il y avait des problèmes d'argent entre eux, etc. etc. Et alors que c'est tout le contraire. C'est-à-dire que depuis
ce que disait très rapidement
Dany, c'est que il a toujours été le grand frère, le protecteur de Christian. Dans leur enfance, dans l'adolescence, et quand ils ont commencé à courir après les jeunes filles sartoises. Et donc, Dany était toujours là pour calmer un peu tout le monde si Christian avait fait un pas de côté un peu malheureux. Il était là pour arranger tout ça. Et ils se sont toujours bien entendus, tous les témoins que j'ai rencontrés, parce que oui, j'en profite pour vous dire... mesdames et messieurs, que au mois de mars à peu près, vous pourrez voir sur M6 un documentaire que je suis en train de préparer en deux parties, 2 fois 55 minutes, sur l'affaire, dont Dany sera évidemment le grand témoin, le fil rouge. Donc tout ça pour dire que tous les témoins que j'ai rencontrés, qui connaissaient les deux frères, le prince, m'ont toujours dit qu'il y avait une vraie complicité entre eux. C'était deux frères qui s'entendaient parfaitement bien. Or, dans l'enquête, on a essayé de faire croire le contraire. Donc c'était fondamental de revenir sur cette enfance, sur cette jeunesse, où Dany et Christian étaient parfaitement heureux. D'ailleurs, j'ai récupéré quelques photos où on les voit tous les deux. On voit bien qu'ils se... Ce sont deux frères très très proches.
Et Dany, vous avez envoyé de nombreuses lettres aux juges, aux acteurs du dossier, à l'Élysée, mais dans lesquelles vous donniez votre version des faits, mais vous avez eu très peu de réponses. Elles sont restées pour presque toutes sans réponse de leur part. Est-ce que ce livre, c'est-il un moyen de leur adresser un message à ceux qui n'ont toujours pas voulu vous écouter ?
Je sais pas. Enfin, moi, c'est vrai, j'ai écrit beaucoup de lettres. Il y en a quand même qui m'ont répondu. Bon, c'est vrai qu'ils sont pas nombreux, mais qu'est-ce que je vous dise ? Vous savez, les hommes politiques, ils sont prêts à vous aider quand ils sont pas au pouvoir, et quand ils sont au pouvoir, ils vous disent qu'il y a la séparation des pouvoirs. Donc, finalement, ils répondent jamais, quoi. Mais il n'empêche qu'il y en a quelques-uns qui m'ont répondu. Après, c'est des réponses un peu toutes faites et. Je pense que celle qui a peut-être le plus intervenu, c'est Marietta Caramanli. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est quelqu'un qui m'a soutenu quelque part. Ouais. Et puis évidemment, d'autres personnes sont intervenues aussi, mais je ne les citerai pas.
Aujourd'hui, Dany Le Prince, vous vivez dans le sud avec votre femme, Annie. Comment est-ce qu'on se remet à la vie après une parenthèse de 18 ans ?
Alors, c'est pas très compliqué, mais il ne faut pas perdre de temps, parce que quand on a un certain âge, on n'a pas de temps à perdre. Et moi, je pars du principe. Puis moi, je me suis mis tout de suite au travail. Donc, non, ça n'a pas été difficile. Moi, je suis rentré avec les francs, je suis ressorti avec les euros. Mais il ne faut pas traîner quand on a un certain âge, quoi. Quand on a 20 ans, on prend le temps de se remettre dans le bain. Là, je n'ai pas tout de suite dans le bain.
À la fin du livre, il y a tout un chapitre sur Annie. En quoi est-ce que c'était important pour vous d'écrire tout un chapitre sur elle et sur votre nouvelle vie ?
Alors ça, c'est un peu compliqué. Je vais peut-être pas prendre assez de mouchoirs parce que... Annie, c'est mon rayon de soleil. Quoi qu'il manque pas de soleil dans le Lot-et-Garonne, mais c'est mon rayon de soleil au quotidien. Quand je me lève, c'est quelqu'un d'adorable. Et d'ailleurs, si le livre est sorti, on peut lui dédier quelque part.
Oui, je suis d'accord.
Donc après la publication de ce livre aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de la justice ?
Ah, ça, c'est une bonne question. D'ailleurs, j'attends depuis très longtemps que la justice fasse son boulot. Mais je voudrais faire une petite parenthèse quand même, parce que souvent j'entends parler, même quand je viens et je discute avec les gens, qui disent que la justice elle est pourrie. Or, c'est pas le cas. Il faut bien faire la part des choses. Il y a encore des magistrats qui font bien leur boulot. Moi, je n'ai pas eu le bol, je suis tombé sur des gens qui ne faisaient pas tellement bien leur boulot. Mais évidemment, j'attends beaucoup de la procédure de révision qui est en cours. Hein. Ça sera la deuxième. Non, la première, c'est pas tellement bien terminé parce que je suis retourné en prison en 2011. Et là, j'attends que les investigations avancent et qu'on puisse se transmettre le dossier à l'étage du dessus. C'est-à-dire qu'on ordonne, qu'on casse l'arrêt de renvoi, l'arrêt de cour d'assises. Et que surtout, on arrête les assassins de ma famille. Ça, c'est important. L'un ne peut pas se faire sans l'autre.
Vous avez, depuis la sortie du livre, vous êtes rendu dans différentes librairies en Sarthe. Vous avez été sur des plateaux de télé. Comment est-ce que vous réagissez face à l'engouement qu'il y a autour de ce livre, car il a été également en rupture de stock et réimprimé. Comment est-ce que vous réagissez face à cela ?
Alors, s'il a été en rupture de stock, c'est parce qu'il n'a pas eu assez de faits. Hein ?
C'est mathématique.
Non, mais c'est un clin d'œil à Flammarion. Et que Bernard va transmettre, évidemment. Et comment j'ai vécu je fais ça naturellement, parce que c'est un devoir de faire connaître ce que j'ai vécu. Non, ça se passe pas trop mal. C'est un peu fatigant parce qu'on n'est pas habitué à ça. On est plus à l'aise, moi je le dis souvent en blaguant, je suis plus à l'aise au milieu d'un champ à régler une charrue que d'aller parler devant les caméras ou... Mais bon, ça se fait. Mais ça fait plaisir de revenir dans la Sarthe et d'être bien accueilli.
Et vous étiez déjà revenu ou pas avant ?
Oui, j'étais revenu pendant ma conditionnelle, parce que la conditionnelle n'interdit pas de venir dans la Sarthe à condition qu'on soit autorisé à le faire. Donc j'ai pu le faire à un certain moment, à certains événements. Et puis il y a eu un moment où le juge de l'application des peines d'Agen, il a dit il faut pas, je ne vais plus vous accorder de visite dans la Sarthe, vous ne pourrez venir qu'aux sépultures. Et donc c'est un peu embêtant parce que toute ma famille est décédée, il n'y avait plus que ma mort pour assister à ma sépulture.
Eh bien merci beaucoup Dany Le Prince, merci Bernard Nicolas d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Merci à vous.
Merci.
Un grand merci à Dany Le Prince et à Bernard Nicolas d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous sommes ravis d'avoir pu les accueillir à Champagné. Et bien sûr, si vous souhaitez en savoir plus sur cette affaire, n'hésitez pas à aller acheter le livre « Ils ont volé ma vie » qui est disponible dans toutes les librairies.